9h sur France Culture. Restez à l'écoute, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment réagir demain si des émeutiers passent à l'attaque? La question inquiète les militaires de l'opération Sentinelle à la veille d'un 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Ces soldats, normalement chargés de missions antiterroristes, ont été chargés par le gouvernement de renforcer la sécurité de certains monuments publics en garde statique, par exemple autour de l'Élysée, pour permettre aux policiers et gendarmes de se concentrer demain sur le maintien et le rétablissement de l'ordre. Inquiétude des soldats, témoignage rare recueilli par Gaël Joly.
Ils ne sont pas franchement surpris, mais plutôt très remontés, les militaires.
On n'a rien à faire dans ces histoires de gilets jaunes.
Comme ce soldat, 14 mois de patrouille sentinelle, dans son régiment, tout le monde se pose la même question. Comment réagir si des émeutiers les attaquent?
On ne sait pas faire du maintien de l'ordre, on n'a pas le matériel nécessaire. On a le gilet pare-balles sur nous et le fusil d'assaut. Et c'est soit ils se font caillasser et vont rentrer dans le bâtiment pour se mettre à l'abri, soit ils ne peuvent pas se mettre à l'abri pour X raisons. Malheureusement, il risque d'y avoir des morts.
Un dérapage dramatique, c'est ce qui inquiète aussi cet autre soldat qui refuse de pointer son arme sur le peuple français.
C'est absurde, c'est du n'importe quoi. L'ennemi ne peut pas être la population, ce n'est pas possible. Et c'est dans la situation dans laquelle on essaie de mettre les militaires aujourd'hui.
Une situation d'autant plus difficile à gérer que beaucoup de soldats éprouveraient une certaine sympathie à l'égard des gilets jaunes, selon ce cadre de l'armée qui dénonce une instrumentalisation politique.
L'armée, ça reste au niveau du gouvernement, c'est le petit joker, on sort qu'on en a besoin. Et là, il y a un gros problème, on va mettre l'armée, comme ça on verra ce que ça donne, et puis nous on reste tranquillement où on est.
L'état-major a bien tenté de rassurer, non, les soldats ne seront pas en contact direct avec les manifestants, mais impossible à prédire, tant le parcours des gilets jaunes reste imprévisible. Dans ce cas, les troupes pourraient être désengagées ou protégées par les forces de l'ordre. Une réponse encore bien trop floue, condamnent les militaires.
Et les militaires ne seront pas placés pour s'interposer vis-à-vis des manifestants. C'est ce qu'affirme ce matin la ministre des Armées, Florence Parly, dans les colonnes du Parisien. Pour savoir de combien de temps le Brexit sera reporté, la balle est désormais dans le camp des députés britanniques. Les dirigeants européens ont décidé hier soir d'accorder au Royaume-Uni deux nouvelles échéances. Pour repousser au-delà du 29 mars le divorce de Londres d'avec Bruxelles. Si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine le texte négocié par Theresa May, le Brexit sera alors reporté au 22 mai, soit avant le début des élections européennes. Mais en cas de nouveau rejet du texte à Westminster, Londres aura alors jusqu'au 12 avril pour décider de son avenir. Rester dans l'Union européenne, c'est encore possible. Élire des eurodéputés, mais Theresa May le refuse. Demander encore au 27 à un report plus long du Brexit ou bien sortir de l'UE sans accord avec de facto un Brexit donc sans accord le 12 avril. La Syrie qualifie de violation flagrante du droit international la déclaration du président américain Donald Trump en faveur d'une reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur la partie du plateau du Golan syrien occupé. Cette annonce des États-Unis a été interprétée comme un coup de pouce au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est en pleine campagne électorale pour les législatives du 9 avril en Israël. Benjamin Netanyahou attendu par ailleurs à Washington la semaine prochaine. Alors que les États-Unis et les talibans mènent depuis des mois des pourparlers de paix, l'OTAN annonce ce matin que deux soldats américains ont été tués en Afghanistan, sans préciser le lieu ni les circonstances de leur mort. Un mois après le début de la contestation, les Algériens comptent bien manifester en masse de nouveau aujourd'hui pour réclamer encore et toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans à Alger. Ce vendredi 29 mars, journée mondiale de l'eau, l'occasion de revenir sur cette ressource qui reste encore un luxe pour une grande partie de l'humanité. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès garanti à l'eau potable, estime l'ONU. Parmi les personnes les plus touchées, les migrants et les réfugiés, et l'Europe n'est pas épargnée, Jérémy Lanche.
Ne laisser personne en chemin, c'est le mot d'ordre retenu par l'ONU pour sa campagne de sensibilisation à l'accès à l'eau. Les Nations Unies l'ont élevé au rang de droit de l'homme en 2010 et pourtant, 3 personnes sur 10 dans le monde ont toujours des difficultés à trouver de l'eau potable de façon sécurisée. Pour les toilettes, c'est même pire, avec 6 personnes sur 10 privées d'accès à des sanitaires. Les pays d'Afrique et d'Asie sont les plus touchés, mais on aurait tort de croire que l'Europe et les pays riches ne sont pas concernés. Il suffit, dit Murray Burt du Haut Commissariat pour les réfugiés, de penser aux gens du voyage et aux migrants.
L'Europe doit comprendre que les réfugiés et les migrants n'ont pas accès à certains services essentiels. Pas parce que ces services n'existent pas, mais parce qu'on leur refuse l'accès. Les raisons ne sont donc pas physiques, mais sociales et politiques. Pensez à quand vous êtes dans la rue et que vous cherchez des toilettes, si vous allez dans un restaurant, on vous dira qu'il faut payer pour y avoir droit. Mais certaines personnes ne peuvent pas payer pour des sanitaires ou pour de l'eau potable. Et ça, ça existe en Europe.
De grandes disparités existent entre les pays. La situation paraît particulièrement grave pour l'Europe de l'Est et les pays proches du Caucase. Mais de nombreux citoyens d'Europe de l'Ouest sont également concernés. En France, une étude de l'INSEE en 2012 indiquait que 650 000 personnes n'avaient pas un accès permanent à de l'eau potable et à des toilettes.
Pyongyang s'est retiré ce matin du bureau de liaison intercoréen installé dans la ville de Kaesong, en Corée du Nord, ce qui représente un revers pour les efforts de rapprochement entre le régime de Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Le temps de ce vendredi 22 mars, de plus en plus ensoleillé au fil des heures, au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 19 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 17 à 23 au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.